Merci beaucoup. C'est une bénédiction pour moi d'être avec vous ici dans cette conférence. Et je suis étonné chaque fois que je vois Robert avec la guitare, avec l'harmonica. Comment vous dites? Harmonica? Bon, harmonica. Est-ce que vous, moi, je joue rien du tout, hein. Je peux même pas des notes de piano, hein. Mais de jouer le guitare et ce harmonica à la fois, hein, ça c'est vraiment un miracle, Robert. Voilà. Et même penser des mots qu'il doit chanter, hein. Il doit dire. Bon, c'est ça, mais ça c'est vraiment un miracle. Voilà. Bon, le message, ou le titre de thème, on peut dire, qui m'a été confié par le pasteur Dodler, était la Babylone de l'Apocalypse, chapitre 17. Et bien entendu, ici, nous sommes en train de voir les passages, la Bible, la base biblique, de cette question d'écuménisme, question de l'Église catholique, question de tous. Et on peut dire, est-ce que c'est vraiment un phénomène, comment on dit phénomène récent, ou est-ce que c'est donc quelque chose qui a duré depuis longtemps et que par la grâce de Dieu il nous a sauvés dans le dernier temps pour voir l'accomplissement de tous ces problèmes qui a commencé avec Babel, hein, il y a des mille et des mille des années. Moi, je me souviens, quand je suis venu en France, voilà, il y a longtemps maintenant, oh là là, non, c'est pas longtemps. J'ai demandé le pasteur Somerville, Arthur Somerville, Monsieur Somerville, qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive en France? Il m'a dit, Alain, première chose, il faut amener une bonne perceuse. Vous savez, moi, je pensais qu'il m'aurait dit, Alain, achetez une bonne Bible, Scofield, avec tous les, bon, les choses, apportez une bonne perceuse, j'ai dit. D'accord, bon. Et il a dit, deuxième chose, méfiez-vous d'écuménisme. Hein? Je suis d'accord.
Dans cet ordre-là.
Dans cet ordre-là, oui. Je vous invite maintenant d'ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, et trouver notre texte, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. À partir de verset 1. Puis un de sept anges, qui tenait les sept coupes, vient, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sentent livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sentent enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, le Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang des saints, et de sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour l'image ici que tu as montré à l'apôtre Jean, et maintenant pour nous. Et Seigneur, nous te demandons aussi que aujourd'hui et ce matin que tu parles à notre cœur, et que tu nous aides de mettre un peu de la lumière sur ce mystère. Merci Seigneur pour ton aide. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Quand je suis arrivé à Montrouge pour commencer notre église il y a presque 8 ans, là il y avait une petite église catholique juste en face de chez moi, une église catholique. Et normalement, ils louaient une pièce à côté, parce que les pièces appartiennent à eux. Et moi, je pensais toujours, bon, on va avoir une église, est-ce que c'est possible même de louer cette pièce, parce qu'ils louent ça à n'importe qui. Il y avait un jeune homme avec nous, maintenant il est pasteur à Lorient. Il a dit, pasteur, on va aller parler avec le prêtre, on va aller parler avec lui pour voir qu'est-ce que ça va coûter, combien, et est-ce que c'est possible même. Un beau jour, nous sommes allés, et bon, on a parlé avec le prêtre. Première chose, il m'a demandé, il m'a dit, vous êtes qui, vous êtes de quoi? J'ai dit, je suis pasteur de l'église baptiste. Il m'a dit, mais, est-ce que, quelle sorte de baptiste? Ah, voilà, bon, il avait déjà entendu, hein. Je suis dit, le pire, hein, voilà, donc, non. Et il m'a dit, je me suis dit, mais monsieur, je suis venu simplement pour demander est-ce que c'est possible, louer le local, c'est tout. Il m'a dit, mais ça dépend. J'ai dit, ça dépend de quoi? Il m'a dit, bon, ça dépend de si vous êtes d'accord de venir chaque, une fois par mois, de faire la prière. Vous savez, le rabbin même de Nantes-Rouge, il est mon ami, il vient une fois par mois. Et le pasteur de l'église réformée, elle vient aussi. Est-ce que vous, monsieur, est-ce que vous pouvez venir pour nous joindre? Je dis, ça dépend. Il m'a dit, ça dépend de quoi? Je dis, ça dépend, est-ce que vous êtes né de nouveau, premièrement? Il a regardé comme ça, il m'a regardé, il a dit, né de quoi? Est-ce que vous êtes né de nouveau, monsieur? Il m'a dit, je comprends pas ça. J'ai dit, mais vous avez une Bible, là. Il avait la Bible sur son bureau, là. J'ai dit, vous n'avez jamais lu Jean chapitre 3? Il m'a dit, mais je vois pas de quoi vous parlez. Et à ce moment-là, le jeune homme français qui était avec moi, il m'a dit, pasteur, il faut qu'on aille. J'ai dit, oui, il faut qu'on aille. C'est pas la peine. Et là, c'était vraiment, pour lui, ses yeux étaient vraiment ouverts. D'où vient le problème? On vient de voir un passage ici dans Apocalypse 17. On va essayer de terminer tout le chapitre là en voyant quelle sera la terminaison de cette histoire avec cette dame. Mais la grande question, c'est qui est cette dame? Il y a deux écoles de pensée sur le sujet de cette dame. Qui est le Babylone de l'Apocalypse? Est-ce que c'est Babylone? Est-ce que c'est la ville de Babylone qui va être reconstruite? Est-ce que c'est l'Église catholique? Est-ce que c'est Rome païenne? Mais les deux grandes théories, la plus répandue, c'est est-ce que c'est l'Église catholique ou un grand système religieux faux. Et je ne sais pas si vous avez lu le livre là par Alexandre Hislop, Les deux Babylones, un jeune homme dans notre église, je ne sais pas où il a procuré ce livre, mais il m'a prêté ça, et honnêtement, ça, c'est incroyable. Toi, Tim, tu connais le livre, donc et c'est quelque chose que je peux vous conseiller de lire si ce sujet vous intéresse. Et lui, je vais simplement lire juste quelques parties de son livre. C'est le De Babylone où l'identité de l'Église romaine et de culte de Nimrod et de Semiramis. Il a dit dans son livre, le langage même et les symboles de l'Apocalypse auraient pu nous préparer à affirmer d'avance que quelques lumières nouvelles et inattendues seraient jetées d'une manière ou de l'autre sur cette période de l'Église de la grande apostasie. Dans les visions de l'Apocalypse, c'est précisément avant le jugement prononcé sur elle que pour la première fois, Jean voit l'Église apostate portant sur le front le nom de la grande Babylone. Que signifie ce nom inscrit sur le front? Cela ne prouve-t-il pas tout naturellement qu'avant la venue du jugement, son caractère véritable devait se développer si complètement que toute personne ayant des yeux pour voir et possédant le moindre discernement spirituel serait forcée, comme par une démonstration oculaire, de reconnaître la merveilleuse appropriation de ce titre que l'Esprit de Dieu lui a appliqué. Son jugement approche, cela est évident, et à mesure qu'il approche, la providence divine d'accord avec la parole de Dieu démontre de plus en plus clairement qu'en effet Rome est la Babylone de l'Apocalypse, que le caractère essentiel de son système, ses grands objets de culte, ses fêtes, sa doctrine, sa discipline, ses rites et ses cérémonies, sa prêtrise et ses ordres sont tous dérivés de l'antique Babylone, et qu'enfin le pape lui-même est vraiment le descendant de Belshazzar. Dans la lutte qui a été soutenue contre les despotiques prétentions de Rome, on s'est trop souvent contenté de combattre et de repousser la présomption avec laquelle elle se vante d'être la mère et la maîtresse de toutes les églises, la seule église catholique hors de laquelle il n'y a point de salut. Si jamais on a été excusable de la traiter ainsi, cette excuse n'existera plus. Si l'on peut justifier le principe que je viens d'établir, il faut lui arracher tout à fait son nom d'église chrétienne, car si c'est une église du Christ, celle qui était assemblée cette nuit, où le roi pontife de Babylone, au milieu de ses 1000 seigneurs, louait les dieux d'or et d'argent, de bois et de pierre. Daniel, chapitre 4. Alors l'église de Rome a le droit de porter le nom d'église chrétienne. Dans le cas contraire, elle ne l'a pas. Quelques personnes penseront que ma thèse est bien audacieuse. Voilà, c'est vrai, hein. Mais ce livre a précisément pour but de la démontrer, que le lecteur juge par lui-même si je n'apporte pas une évidence plus que suffisante pour justifier mon assertion. Voilà. Et là, en lisant son livre, vous voyez tout de suite que pour lui, le Babylone qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 17 doit être l'Église catholique. Et bon, mais d'où vient le problème? Je vous invite de regarder dans Genèse chapitre 11. Et on va voir quel était le problème. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, à partir de verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Hein? C'était anglais, n'est-ce pas, Tim? C'était anglais. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, qu'est-ce qu'on va parler au siège? J'ai dit anglais, hein? C'est
la dernière fois que je vous ai
invité. Oui, oui. Vous savez que moi, je vois à tel point Dieu a bien fait son travail, n'est-ce pas? Voilà, bon, moi, anglophone, a essayé de parler cette langue. Ouf. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais il y avait un problème avec cela. Parce que pas seulement avaient-ils le même langue, les mêmes mots, ils avaient autre chose dans la tête aussi. Regardez dans verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et verset 6, c'est le problème. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et vous savez, avec cet écuménisme, avec ce que nous voyons actuellement aujourd'hui, on voit que tout le monde veut être ensemble. Tout le monde, bon, si vous êtes un peu, bon, une divergence gauche ou droite, doctrinale parlant, ça fait rien du tout. Bon, venez, on va manger comme le prêtre m'a dit. Bon, on a le catholique ensemble, on a le juif ensemble, on a l'église réformée, on a les protestants. Bon, venez, on est toute une grande famille, très content. Là, il dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Hein? Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. L'homme, dans son cœur mauvais, veut faire ce qu'il veut faire. Même si c'est dans la vérité ou non, plutôt pas dans la vérité. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu, il voit la méchanceté du cœur de l'homme. Aucun problème. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela le nom de Babel, ou en hébreu, confondre, là où Dieu a confondu les langues, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et c'est là le commencement de religion, monsieur et madame. Et là, on peut dire Babylone, hein? Même quand Dieu parle dans l'Apocalypse de Babylone, le mystère, nous voyons que ici, c'est là le commencement, et donc, selon la Russe, la définition de Babylone, il nous donne cette information ici, de base Mésopotamie, maintenant, dans les imposantes ruines. Dieu, vous savez, a bien détruit cette ville. La cause, pourquoi? Parce qu'ils sont, s'éloignés de l'enseignement de Dieu, le seul Dieu de peuple Israël, de Juif, le seul Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre. Ils ont voulu de servir leurs autres dieux, y compris Baal, y compris Molech et tous ces fausses dieux. Mais Dieu a dit, il y aura un jugement contre Babylone. Il y aura un jugement. Et quand Dieu dit, et Dieu, nous servons, monsieur et madame, un Dieu plein de la miséricorde et la grâce, il nous donne beaucoup de temps pour l'homme de se repentir de ses péchés. Mais l'homme a préféré que, au lieu de se repentir, continuer à s'éloigner. Et même son propre peuple, Israël, quand il se mélangeait avec ses païens, ils ont oublié Dieu et eux-mêmes ont commencé de servir les Baals et les fausses dieux. Mais Dieu a donné à Ésaïe la prophétie qu'il va détruire Babylone et que Babylone ne sera jamais reconstruite. Au bout, et voilà, il dit là, de base Mésopotamie, donc les imposantes ruines au bord de l'Euphrate sont à 160 kilomètres au sud-est de Bagdad. Sa fondation doit être attribuée aux Akkadiens, 2825 vers 2160 avant Jésus-Christ. Hein? C'est la plus ancienne, si vous voulez, religion du monde, qui est là l'origine commencée. La première dynastie amorite s'y établit vers 1894 avant Jésus-Christ. Hammurabi, le sixième roi de cette dynastie, en fit sa capitale, souvent soumise par la Syrie. Babylone resta la capitale intellectuelle et religieuse de la Mésopotamie. À la fin du 7e siècle, une dynastie indépendante, dite chaldéenne, s'établit à Babylone. Son fondateur, Nabopolassar, prit part avec les Mides et à la ruine de la Syrie. Son fils, Nabucodonosor, il prit Jérusalem 587 avant Jésus-Christ, et les Juifs ont été pris en captivité par Nabucodonosor, et ils ont bien entendu détruit le temple de Dieu, et déporta beaucoup de ses habitants. De son règne datant les principaux monuments de Babylone. La ville fut prise par Cyrus, environ 539, je pense que c'est un peu plus tard que ça, mais bon, qui fit de la Babylonie une province de l'Empire Perse. Xerxès démantela Babylone après sa révolte. Alexandre la choisit comme capitale de l'Asie et il mourut en 328 avant Jésus-Christ. Babylone déclina quand les Séleucides eurent fondé celui-ci sur le Tigre. Donc là, nous voyons que le problème, Babylone, et on a toujours le problème avec Saddam Hussein, n'est-ce pas, même aujourd'hui, il y a toujours une question, toujours un problème. Maintenant, nous voulons devoir le deuxième. On a dit que la première école de pensée sur ce sujet de qui est le Babylone de l'Apocalypse 17, c'est l'Église catholique. La deuxième école, c'est que c'est un grand assemblement de faux religions ou écuménisme, Donc, qui se réunit à la fin du temps. Et selon de M. Valvoide, dans son livre « L'Apocalypse de Jésus-Christ », ils disent le suivant. Le sujet de Babylone dans l'Écriture est un des plus importants thèmes dans la Bible. La ville de Babel est mentionnée pour la première fois dans Genèse 10. Et la dernière mention de Babylone est ici dans l'Apocalypse. De ce passage divers, il est clair que Babylone est le nom d'un grand système d'une fausse religion. Babylone est actuellement une reproduction frauduleuse d'une religion qui a tourmenté Israël dans l'Ancien Testament, ainsi que l'Église du Nouveau Testament, et postérieure des temps apostoliques, avait une influence énorme en éloignant l'Église de son base biblique vers un apostolat confus. Suivant les principes sataniques en offrant un substitut pour le plan parfait de Dieu, Babylone est la source d'une fausse religion, parfois en forme d'une chrétienté pseudo, parfois dans la forme d'une religion païenne. Néanmoins, sa forme la plus déroutante se trouve dans le romanisme. Moi, et donc, on va vous dire ce que je, l'interprétation que je donne moi-même à ce passage. Mais maintenant, j'aimerais bien que nous regardions le passage un peu plus en détail. Verset 10, 1 de chapitre 17 d'Apocalypse, s'il vous plaît. Puis un de ces sept anges qui tenait les sept coupes vient, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand haut, sur les grandes hauts. » Il faut savoir aussi, dans quelle partie parle-t-il ici, l'apôtre, quand il parle de Apocalypse chapitre 17, cette prophétie sur le maire de Babylone, le maire, le mystère de Babylone. Cette partie-là tombe sur le commencement de l'Apocalypse, excusez-moi, de la tribulation. C'est pas au milieu, c'est pas dernière. Même c'est avant que les sept anges ont versé leur coupe de jugement. Mais Dieu a déjà préparé le jugement et si vous avez étudié l'Apocalypse, vous voyez dans le chapitre 16, il parle de ces sept coupes de jugement qui vont verser. Mais donc, là, il parle de ces sept anges qu'il a désignés Dieu-même pour apporter le jugement contre cette fausse religion. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Le même mot qu'on en voit dans verset 1, prostituée, c'est porné. Et la débauche, vient de même racine, mot en grec, porneo. Et donc, les débauches, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous savez que toutes sortes de divergence, comment on dit divergence? Divergence d'une vraie doctrine biblique, c'est une prostitution de la parole de Dieu, mesdames, messieurs. Et nous ne pouvons pas, étant donné que pasteur et enseignante de la Bible, nous ne pouvons pas mélanger, nous ne pouvons pas faire un compromis pour n'importe quelle personne sur le plan biblique. C'est impossible, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas de vous, mais moi, je ne peux pas. Et donc, ici, là, ce que cette prostituée a fait, elle a mis sur le roi de la terre, même les têtes de gouvernement, même les gens importants, hein, cette fausse ou cette mélange de doctrine faux. Il me transporte, verset 3, il me transporte en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Si vous voyez dans le chapitre 13 de cette bête, vous voyez, c'est un système, un gouvernement, hein, mondial, un gouvernement, qui, avec l'image qu'il a notée là, avec sept têtes, hein, cet empire, qui était avant l'empire, présent dont l'apôtre Jean parlait là, et 10 cornes qui sera en fédération de 10 voix, qui vont travailler ensemble avec la bête, l'antichrist. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est intéressant à noter dans le verset 3 qu'elle était assise sur cette bête. Ça veut dire que la bête, elle a travaillé avec la bête. Et même en plus, elle a dirigé la bête. Quand vous êtes à cheval, là, vous avez le renne, là. Voilà, vous tournez, vous faites tourner à gauche ou à droite le cheval, vous qui êtes monté au cheval. Et c'est la même chose avec cette dame-là, ce système de faux religion qui va marcher, qui va travailler avec la bête et même plus que ça, diriger l'Antichrist. Et donc, dans le verset 4, il dit, « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » On voit les couleurs, les couleurs là, pourpre, écarlate, qui va tout à fait avec avec toute cette forme de religion extérieure aujourd'hui. Il y avait une dame, notre église se situe juste en face d'une petite, une grande café, même le café plus grand que notre église, hein, c'est toujours comme ça. Et là, on est juste en face d'un café, et là, un jour, un beau jour, j'étais au bureau, et là, sans frapper sur la porte, rien, boum, une dame est entrée là. Tout de suite, j'ai senti le résultat du café en face. Elle m'a dit, elle a regardé comme ça, elle m'a dit, « C'est une église ?» J'ai dit, « Oui, madame, c'est une église. »« Quelle sorte d'une église ?» J'ai dit, « C'est une église baptiste. » Elle a regardé là, elle a regardé comme ça, elle m'a dit, « C'est la plus moche église que j'ai jamais vue. » Je disais, mais qu'est-ce que vous voulez comme église, madame? Oh, mais bon, Notre-Dame, voilà, là, quelque chose, les images, les idoles, quoi, il n'y a rien là que, quoi, là? C'est là que le monde pense, hein, n'est-ce pas, de religion. C'est ça. Là, bon, ça attire le monde, hein, les yeux, le pourpre, l'écarlate, voilà, c'est vraiment attirant. Mais un petit bureau, là, un truc, non, c'est quelques livres de théologie, et surtout la Bible. Hein, la Bible, hein? Elle n'aimait pas la Bible. Bon, cette dame a bien travaillé, n'est-ce pas? Elle a fait son travail pendant des siècles, des siècles, des siècles. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées, les abominations de la terre. J'aimerais bien vous lire encore juste un petit une partie de cet livre. La mère et l'enfant. Nous pensons que cette idée ou cette doctrine de mère et l'enfant, de la Vierge et l'enfant, est quelque chose de nouveau. Mais en effet, c'est pas nouveau. La mère et l'enfant est l'originaire de l'enfant avec une parallèle. Pareil, théorie, la première personne de la divinité était mise de côté dans la pratique, étant le grand Dieu invisible qui n'intervenait en rien dans les choses de l'humanité, il devait être adoré dans le silence. Excusez-moi, je dois vous expliquer. Nimrod, c'était lui qui a trouvé, qui a commencé cette ville de Babylone, de Babel. Il avait une femme qui s'appelle Samaris. Samaris avait un enfant qui s'appelle Tammuz. Et même, vous lisez dans Jérémie la Lamentation est aussi Jérémie, vous voyez que les gens pleurent sur Tammuz, ça veut dire l'enfant de cette Samaris. Bon, il continue. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'était pas adoré de toute part de l'altitude. Le même trait est aujourd'hui mis en relief dans l'Inde d'une manière frappante. Quoique Brahma, d'après le livre sacré, soit la première personne de la tirade hindoue, et que la religion de l'Hindoustan soit désignée par son nom, cependant on ne l'adore jamais, et dans l'Inde entière, c'est à peine s'il existe aujourd'hui un seul temple de ceux qu'on élevait autrefois en son honneur. Il en est de même en Europe. Dans le pays, le système papal s'est le plus complètement développé. Dans l'Italie papale, de la vie de tous les voyageurs, sauf là où l'Évangile a récemment pénétré. Cet livre était même à l'époque de Spurgeon, là, même peut-être un peu avant. Il n'y a presque plus aucune trace d'adoration de voix éternelle et invisible, tandis que la mère et l'enfant sont les deux grands objets de culte. Il en était absolument de même dans l'ancienne Babylone. Les Babyloniennes, dans leur religion populaire, adoraient par-dessus toute une mère de déesses et son fils, qui était représenté dans le tableau et par des statues comme un petit enfant dans les bras de sa mère. De Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandait jusqu'au bout du monde. En Égypte, la mère et l'enfant étaient adorés sous le nom d'Isis et de Osiris. Dans l'Inde, même aujourd'hui, sous le nom d'Isis et d'Issawara, en Asie, c'est Cybèle et Déoïs. Dans le Rome païen, leur fortune est Jupiter Puer ou Jupiter l'enfant. Et en Grèce, Cérès, la grande mère avec un nourrisson au sein, ou Irène, la déesse de la paix, avec l'enfant Plutus dans les bras, et même au Tibet, au Japon, en Chine, les missionnaires jésuites ont été bien surpris de trouver la contrepartie de la Madone et son enfant adorés aussi dévotement que dans le Rome papal elle-même. Vous voyez que c'est pas quelque chose de nouveau, voilà, cette doctrine de mère. Et là, dans les églises, dans n'importe quelle église, et quand, et c'est ce que je dis dans notre église, là, les sectes ou n'importe quelle religion qui vous apprend de détourner vos yeux de Jésus-Christ vers autre chose, c'est un faux religion. Et là, ce qu'ils ont utilisé, c'est le Madone, c'est la Vierge pour détourner nos yeux de Jésus-Christ vers autre chose. Et même dans la religion juive, même ce qu'ils font dans leur religion, chaque vendredi, ils prennent le Torah, ils font passer le Torah par tout le monde et il doit donner un bisou au Torah. Et si vous voulez, ça c'est même, moi, la parole de Dieu, pour moi, c'est la parole de Dieu. Mais quand on met la parole de Dieu comme un idole, c'est plus la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Hein? C'est l'idolâtrie. Et moi, je refusais, moi, j'étais invité à assister, moi, j'ai assisté dans une synagogue. Mais quand ces choses arrivaient, je refusais. Autant donner que j'aime la Torah, j'aime la Bible. Bon, sur cette dame-là, nous retournons dans notre texte et on va dépasser. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang de saint et de sang de témoin de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On peut dire, bien entendu, on lit ça, dans verset 6, on dit oui, c'est l'Église catholique, parce que depuis, le temps de la Réformation, combien de chrétiennes, même ici des Huguenots en France, combien ont été mis à mort, on dit toujours, voilà, c'est l'Église catholique. Et c'est vrai, l'Église catholique se trouve là, dans verset 6, c'est vrai. Mais c'est pas simplement l'Église catholique qui se trouve là, parce que pendant tout le siècle, toute l'histoire, les chrétiennes, ont été mis à mort depuis le temps de Jésus-Christ. Et voilà, l'ange me dit, verset 7, « Pourquoi t'étends-tu, je te dirai le mystère de la femme ?» Et voilà, il va nous dire le mystère de qui est cette femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'était plus et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et là, ça veut dire la résurrection de l'ancien empire romain, et c'est vrai, une confédération à la fin de cette période dont nous vivons. Hein, et là, la résurrection de cet empire sera le septième tête. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et beaucoup de monde, pense que ces sept, sept montagnes donnent une référence à Rome. Mais il y a des arguments aussi qui disent que si vous allez à Rome, vous voyez pas cette montagne. Vous voyez des collines, hein. C'est pas tout à fait des montagnes, hein. Et voilà, on peut dire que, voilà, là, est-ce qu'il parle vraiment de lieu ici? Parce que Dieu, il utilise, même dans Jérémie, il parle de Babylone. Il parle de Babylone comme une montagne. Dieu, il use l'image, et il parle pas plutôt, ou forcément ici, d'une vraie montagne. On ne peut pas dire, exprès ici qu'il parle de vraie montagne. Et si nous basons notre interprétation de cette chapitre de cette dame Babylone sur verset 9, je ne pense pas honnêtement que nous pouvons le faire. Parce que là, c'est simplement une seule. Mais est-ce qu'il parle? Parce que dans verset 10, il va expliquer sur laquelle la femme est assise. Verset 10, il explique, ce sont aussi sept rois. Est-ce qu'il parle ici de sept empires? Et c'est ça que je pense. Il parle de ces sept empires, les Grecs, Perses, Babylone, Assyriens, Égyptiens et les Romains. Et le septième va être la résurrection de cet empire romain. Et moi, je pense plutôt oui. Et qui n'est plus, et elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre de sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. C'est une confédération de dix rois. On peut dire, vous dites, mais dans notre époque ici, c'est qui? Bon, moi, je ne peux pas dire c'est qui. Hein? Mais il y aura une confédération de dix rois, de dix chefs d'État, qui vont travailler ensemble avec l'Antichrist et son gouvernement à la fin du temps, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. La bête va donner à ces dix rois l'autorité pendant un petit moment. Et verset 13 nous dit, et ils ont un même dessein. Ils travaillent ensemble avec la bête. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Hmm? Dirigés par la bête, ces dix rois vont faire exactement ce que la bête va les dire. Et verset 14 nous dit, ils combattront contre l'agneau, Jésus-Christ, qui va revenir dans verset chapitre 19. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ça m'a montré aussi que nous allons retourner avec le Seigneur Jésus-Christ, comme il s'est noté dans le chapitre 19, pour combattre contre l'Antichrist. Est-ce qu'il a besoin de nous? Pas du tout, mais on va être là avec lui quand même. Et il m'a dit, verset 15, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ça veut dire, les eaux représentent les nations du monde. « Les dix cornes que tu as vues et la bête auront la prostituée. » Même ils vont se détourner contre cette faux religion, cet œcuménisme, et ils vont se détourner d'elle, et ils vont, la Bible nous dit, les dix cornes que tu as vues et la bête auront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça va être le fin de cette système faux religieux pendant la fin du temps, pendant la tribulation, peut-être plutôt au milieu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Hein? Est-ce que ça parle de la grande ville Babylone? Non. Ça parle toujours d'un système religieux qui a la royauté sur les rois de la terre. Pour répondre aux questions, qui est cette dame dans l'Apocalypse chapitre 17? Est-ce que c'est l'Église catholique? Oui. Oui, je pense que c'est elle fait une grande partie de cette dame. Mais est-ce que c'est la seule? Non, je pense que toutes les religions, soit que ça c'est l'orthodoxe, l'église orthodoxe russe aujourd'hui, l'église réformée, mais tout ce qui se réunit ensemble, pour propager leur fausse doctrine, sera la Babylone dont parle ici l'apôtre Jean et dont parle le Seigneur Jésus-Christ ici à nous. Je remercie le Seigneur beaucoup pour cet institut. Vous savez que le diable ne veut pas que nous gardions ici en France une doctrine saine et séparatiste contre l'écuménisme. Il ne veut pas ça. Et il va travailler à il va faire tout ce qu'il peut faire pour empêcher ce show d'arriver. Parce que, honnêtement, d'où vient le problème? Le problème vient là où les jeunes sont formés pour servir le Seigneur. Vous regardez l'histoire des États-Unis. Tout ce qui était apostat a commencé quand les écoles bibliques se divergeaient, s'éloignaient de la vérité biblique doctrinale. Là, c'était le problème. Et là, ici en France, on voit le même problème là. On dit, mais monsieur là, vous êtes un peu séparatiste tout, je sais, je suis alarmiste. Parce que quand je vois, et là, quand on est au milieu d'un problème comme ça, on voit pas vraiment ça. On peut continuer, petit à petit. Le diable, il travaille jamais brusquement et vitement. Il est rusé, il travaille sous la couverture, petit à petit, et tout de suite on arrive à un moment où on dit, voilà, on est bien là. Je remercie le Seigneur pour cette école, et je prie chaque jour pour cette école, pour le Seigneur de nous envoyer plus des jeunes pour être formés, afin que nous puissions avoir ici en France une reste qui sont fidèles à la parole de Dieu et qui sont fidèles à la doctrine biblique. Merci beaucoup. Voilà.